programme en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 12 août 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le président guinéen Alpha Condé a confirmé la date du 18 octobre pour la présidentielle et maintient le suspense sur son éventuelle candidature. Au Mali, les forces de l'ordre ont dispersé des manifestants qui ont passé la nuit sur une place de Bamako pour réclamer la démission du président Ibeka. Au Soudan du Sud, au moins 127 personnes ont été tuées depuis samedi dans des heurts entre l'armée et des jeunes qui refusaient de rendre leurs armes. Une première aux États-Unis, le présumé candidat démocrate Joe Biden a choisi comme colistière Kamala Harris, une femme noire. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le président guinéen Alpha Condé a fixé l'élection présidentielle au 18 octobre, confirmant la date proposée par la CENI. Un scrutin à haut risque pour lequel son éventuelle candidature est contestée par l'opposition. Le point avec Abdourahmane Dia.
C'est à travers un décret présidentiel lu à la télévision publique que l'annonce a été faite. Le Rassemblement du peuple de Guinée au pouvoir a désigné le président Alpha Condé comme candidat à l'élection présidentielle la semaine dernière, mais il n'a pas encore indiqué s'il allait ou non se présenter. Selon la constitution guinéenne, une présidence se limite à 2 mandats et le chef de l'État a été élu en 2010 et 2015. Le président Condé, âgé de 82 ans, a fait passer en mars une réforme constitutionnelle qui était, selon l'opposition, destinée à lui permettre de se présenter une troisième fois. L'éventualité d'une nouvelle candidature de M. Condé a suscité des manifestations de masse depuis octobre dernier qui ont fait des dizaines de morts. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante a demandé hier aux partis politiques de lui soumettre demain jeudi les noms et contacts de leurs représentants à une commission financière de la CENI en prévision de l'élection du 18 octobre.
Au Mali, des manifestants du M5-RFP qui ont passé la nuit sur la place de l'Indépendance ont été dispersés ce matin par les forces de l'ordre à Bamako. Ils disent avoir l'intention de continuer la contestation jusqu'à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le médiateur de la CDAO, Goodluck Jonathan, en visite dans le pays, a participé à la cérémonie de prestation des membres de la Cour constitutionnelle et a échangé avec les acteurs de la crise. Le point avec Kassim Traoré.
À la suite du rassemblement du 11 août 2020, les leaders du M5-RFP et leurs militants ont passé la nuit sur la place de l'Indépendance. Mais ce matin, les forces de l'ordre les ont dégagés de façon musclée. Pour les leaders du M5, c'est une provocation. Par ailleurs, Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, séjourne actuellement à Bamako. Il est venu évaluer les recommandations des chefs d'État de la CEDEAO.
We had discussions again with the key stakeholders.
Les problèmes qui arrivent au Mali sont des problèmes sociétaux. Ça arrive dans presque toutes les populations. Lui, il vient seulement en tant que facilitateur pour aider à ce que cette crise ne perdure pas.
Avant le meeting du M5-RFP, Goodluck Jonathan avait échangé avec l'imam Mahmoud Diko, Ibrahim Boubacar qui est à l'ordre de la cérémonie de prestation des magistrats de la Cour suprême. Et ce matin, il se trouve à Nioro du Sahel afin d'échanger avec le shérif de cette localité, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le ministère français des Affaires étrangères a placé l'ensemble du Niger, à l'exception de Niamey, en zone rouge après l'attaque dans laquelle 6 Français et 2 Nigériens sont morts. Avant l'attaque, le sud du pays était en zone orange et la route menant au parc de Kouré était en jaune selon les conseils aux voyageurs du gouvernement français. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités de Goma ont lancé des contrôles pour exiger le port obligatoire du masque contre le coronavirus. Le Nord Kivu est la deuxième province la plus touchée après Kinshasa, qui a enregistré 470 cas. Les contrevenants sont gardés dans un stade toute la journée avant d'être relâchés le soir. La police promet de fortes amendes à ceux qui se déplaceront sans masque. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers du jour avec notre correspondant sur place. Au Soudan du Sud, au moins 127 personnes ont été tuées ces derniers jours dans des affrontements entre soldats et des jeunes qui refusaient de se prêter à une opération de désarmement, a indiqué l'armée. 82 civils et 45 soldats sont morts. Ces heurts ont débuté samedi dans l'état de Warap. De jeunes hommes armés de la communauté Gelweng, refusant de rendre leurs armes, ont attaqué une position de l'armée. Les affrontements ont fait également de nombreux blessés. Des associations tunisiennes ont exprimé leur solidarité avec le journaliste algérien Khaled Drareni, condamné par la justice de son pays à 3 ans de prison, et ont appelé à sa libération. Notre confrère Drareni est incarcéré depuis le 29 mars. Il a été condamné lundi à 3 ans de prison, plus une lourde amende pour atteinte à l'unité nationale. Des djihadistes se sont emparés du port de Mocimboa da Praia dans le nord du Mozambique après une série de récentes attaques dans cette région. Les djihadistes ont touché un bateau dans le port avec un lance-roquettes selon une source militaire qui a dit que la situation était compliquée. Cette ville située dans la province de Cabo Delgado se trouve à 80 km de la péninsule d'Afungi, riche en gaz naturel.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Joe Biden, le présumé candidat démocrate à la présidentielle américaine de novembre, a choisi la sénatrice Kamala Harris comme colistière, faisant d'elle la première femme noire et personne d'origine indienne à être sélectionnée par un grand parti pour le ticket présidentiel. Les États-Unis n'ont jamais eu de femme présidente ou vice-présidente. Eric Manirakiza.
Annonçant la nouvelle mardi, l'ancien vice-président Joe Biden a qualifié la sénatrice Harris de combattante intrépide et l'une des meilleures cadres de ce pays. Sénatrice de Californie et ancienne candidate démocrate à la présidentielle, Harris a déclaré qu'elle était honorée d'être choisie et que Joe Biden pouvait unifier le peuple américain. Les analystes estiment que Harris est un choix sûr qui aidera Biden avec vote décisif des électeurs noirs. Robert Griffin est directeur de recherche du groupe d'études des électeurs du Fonds pour la démocratie.
Joe Biden est probablement un peu en retard par rapport à Hillary Clinton en 2016 parmi les jeunes électeurs noirs. Donc, l'une des choses qu'elle peut faire est vraiment de se concentrer sur cette communauté pour voir si elle peut ramener les taux de soutien au niveau où ils étaient en 2016.
Aussitôt après l'annonce de Biden, la campagne de Donald Trump a publié une contre-attaque.
Slow Joe and phony Kamala, perfect together, wrong for America.
She was probably nastier than even Pocahontas.
Probablement plus méchante que même Pocahontas, Elizabeth Warren, pour Joe Biden. Elle était très irrespectueuse envers Joe Biden. Et il est difficile de choisir quelqu'un qui soit aussi irrespectueux.
Dans les semaines à venir, les campagnes Trump et Biden seront en compétition pour dépeindre Kamala Harris, Robert Griffin du groupe d'études des électeurs du Fonds pour la démocratie.
There's still even about a third of Americans who would say that they don't have enough information.
Encore environ un tiers d'Américains disent n'avoir pas assez d'informations pour vraiment se faire une opinion sur Kamala Harris. Mais cela va changer assez rapidement, surtout avec la prochaine convention du Parti démocrate.
Tout cela devrait rehausser le profil de la sénatrice Harris, a conclu Robert Griffin.
La pandémie de COVID-19 a fait plus de 740 000 morts et contaminé plus de 20 millions de personnes dans le monde. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 164 000 décès pour environ 5 millions de cas. En Espagne, près de 5 000 nouveaux cas quotidiens sont enregistrés depuis une semaine. En Belgique, le masque est obligatoire à Bruxelles. Le Royaume-Uni a subi au deuxième trimestre une chute de plus de 20% de son économie et sa pire récession jamais enregistrée en 6 mois. En Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern évoque un possible report des élections du 19 septembre. En Russie, le président Vladimir Poutine a affirmé mardi que son pays avait développé un vaccin contre le virus et prévoyait de le produire dès septembre. L'armée israélienne a indiqué avoir frappé la nuit dernière des positions du Hamas dans la bande de Gaza à la suite de lancers de ballons incendiaires vers le territoire israélien. Par ailleurs, le Parlement a rejeté un projet de loi visant à empêcher une personne inculpée de former un gouvernement. Initié par le chef de l'opposition, Yair Lapid, ce projet visait à disqualifier le Premier ministre Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption. Les Libanais continuent d'enterrer les victimes de l'explosion au port de Beyrouth, tandis que les forces politiques conspuées par la rue abordent la formation d'un nouveau gouvernement réclamé sans délai par la communauté internationale. 8 jours après l'explosion dévastatrice, les dirigeants internationaux se succèdent à Beyrouth, qui a reçu ce mercredi la visite du chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
La Kenyan Equity Group Holdings acquiert 66,53% des actions de la Banque commerciale du Congo pour 95 millions de dollars. Créée en 1909, la BCDC est la plus ancienne banque de la RDC. Le groupe Equity dispose d'un actif de près de 7,5 milliards de dollars américains avec plus de 14,5 millions de clients. Il possède également des filiales bancaires au Kenya, en Ouganda, au Soudan du Sud, au Rwanda, en Tanzanie, en RDC et un bureau de représentation en Éthiopie. L'Algérie se bat pour sécuriser l'avenir de son gaz sur le marché international, troisième exportateur de gaz au monde après la Russie et la Norvège. L'Algérie a déjà enregistré de grosses pertes en volume ces dernières années. Le pays fournit plus de 12% des importations de gaz naturel de l'Union européenne. En 2020, le ministère prévoit l'exportation de 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel. L'ère de la messagerie électronique tire inexorablement vers la fin dans l'espace CEMAC. À partir du 1er septembre prochain, la Banque des États de l'Afrique centrale annonce que seule l'application e-transfer sera autorisée dans l'ensemble de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Coup de théâtre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le comité d'urgence du comité exécutif de la Fédération de football a suspendu le processus électoral en cours pour la validation des candidatures à la présidence de l'instance dirigeante du football ivoirien. Le communiqué de la FIFA justifie cette suspension par, je cite, « de graves manquements constatés dans la conduite du processus électoral ». D'après le communiqué, le président de la fédération, Sidi Diallo, a saisi par courrier le 10 août la FIFA et la CAF pour les informer de sa volonté de suspendre le processus électoral et de convoquer une assemblée générale en session extraordinaire pour examiner les dispositions à prendre pour la suite des opérations électorales. Cet AG extraordinaire est prévu se tenir le 29 août à Abidjan. L'ordre du jour concernera le rapport du comité exécutif sur la décision de suspension du processus électoral et de la recomposition de la commission électorale et la poursuite des opérations électorales. Et puis, à 3 matchs d'un sacre européen inédit, le PSG débute son Final 8 en quart contre l'Atalanta Bergame ce soir à Lisbonne, avec l'envie d'écrire l'histoire malgré plusieurs absents de marque. Marco Verratti est a priori forfait, Kylian Mbappé garde l'espoir de figurer sur le banc des remplaçants, même l'entraîneur Thomas Tuchel s'est blessé à un pied. Le défi est donc énorme pour le club du Sénégalais Idrissa Ganagé et du Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting. Une qualification des Parisiens leur permettra de fêter en toute sérénité les 50 ans jour pour jour après la création officielle du Paris Saint-Germain le 12 août 1970. En Angleterre, une levée de fonds a été lancée pour ériger une statue de Jack Leslie, un milieu de terrain qui aurait dû devenir en 1925 le premier joueur noir international anglais de football, avant que les sélectionneurs ne réalisent qu'il était métis. Milieu offensif, Leslie jouait pour Plymouth Argyle et était le seul joueur de couleur professionnel de son époque. Né d'une mère anglaise et d'un père jamaïcain, Il avait été sélectionné pour un match contre l'Irlande, mais la convocation a été retirée par la suite à cause de la couleur de sa peau. Il a fallu attendre 1978 pour que Vibe Henderson devienne le premier footballeur noir à intégrer la sélection anglaise. Nous ne voulons pas seulement ériger une statue en l'honneur de Jack Leslie, mais aussi utiliser son histoire pour célébrer la diversité et combattre le racisme, peut-on lire sur le site web de la Jack Leslie Campaign, qui espère réunir 110 000 euros environ.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités de Goma ont lancé des contrôles pour exiger le port obligatoire du masque contre le coronavirus. Le Nord-Kivu est la deuxième province la plus touchée après Kinshasa, qui a enregistré 470 cas. Les contrevenants sont gardés dans un stade toute la journée avant d'être relâchés le soir. Le point avec notre correspondant à Goma, Charlie Kazereka.
Désormais à Goma, le port des masques et des protections contre le coronavirus est devenu obligatoire pour tous. Ce matin, un dispositif policier a été bien visible sur les routes pour vérifier ceux qui n'ont pas de masque dans les bus de transport en commun comme dans les véhicules privés. Le chef de la police lui-même sur terrain essaie de prodiguer des conseils à ceux qui viennent d'être interpellés. Jean de Die Bahati et Jaron Sengi, tous dégardés par la police au stade des volcans de Goma.
Je sortais de chez moi pour le boulot. Malheureusement, je ne portais pas correctement le cache-nez. C'est comme ça que la police m'a interpellé. Elle nous dit que nous serons gardés ici jusqu'au soir. Mais c'est vraiment difficile. Si on nous accordait le pardon seulement pour vous.
Je suis là aussi parce que je n'ai pas bien porté le masque sur la bouche. Il était au cou. Je me dirigeais au boulot. Malheureusement, ma journée vient d'être gâchée.
Ils sont gardés toute la journée dans ces stades et sont libérés vers la fin de la journée à 18h. Edgar Maungu, enseignant et chercheur à l'université, pense que c'est le moment de passer à la vitesse supérieure vu les relâchements observés dans les habitudes des habitants de Goma.
Je salue cette mesure de contraindre les gens à l'application de ces mesures barrières. Et j'invite à ce que soit maintenu cet élan de contrôle et de suivi pour que les gens ne puissent pas relâcher. Nous sommes la deuxième province après la ville-province de Kinshasa à enregistrer des centaines de cas au Covid-19.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ayant levé l'état d'urgence, le gouvernement du Nord Kivu veut intensifier la sensibilisation sur les mesures de protection contre le coronavirus. David Kamoura est ministre provincial des Finances et Mines.
Effectivement, nous avons constaté que les gens ont fait la confusion entre la levée de l'état d'urgence sanitaire et la fin de la maladie. Mais la maladie est toujours là et d'ailleurs a pris beaucoup d'ampleur dans notre province. Désormais, ne pourra être admis à la circulation que la personne qui va avoir son masque est bien le porter. Nous allons renforcer les contrôles au niveau des points d'entrée de la ville, au niveau des points chauds de Carrefour pour nous rassurer que dans les bus, dans tous les moyens de transport, les mesures sont respectées.
La RDC compte à ce jour plus de 9500 a confirmé, le Nord-Kivu est la deuxième province la plus touchée avec plus de 460 cas après la ville-province de Kinshasa, l'épicentre de la pandémie en RDC. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les fermiers blancs du Zimbabwe, dont les terres ont été redistribuées à l'époque de Robert Mugabe, ont positivement accueilli un plan de compensation gouvernementale de 3,5 milliards de dollars. Le président Emmerson Mnangagwa espère que l'accord encouragera les investissements étrangers. Mais comme le rapporte Columbus Mavunga depuis Harare, des questions demeurent sur la manière dont le gouvernement va lever les fonds. Le récit est d'Arzuma Compaoré.
Des milliers de fermes ont été reprises à l'époque de Robert Mugabe, principalement des fermiers blancs, et redistribuées aux fermiers noirs. L'accord de réparation de juillet concerne les propriétés saisies sur le terrain et non le terrain lui-même, et s'élève à 3,5 milliards de dollars. Même si le Zimbabwe n'a pas les fonds nécessaires, l'association Zimbabwe Commercial Union Farmers est pleine d'espoir. Ben Gilpin est le directeur de la Zimbabwe Commercial Farmers Union. Étant donné que l'âge moyen des agriculteurs lorsqu'ils ont perdu leur propriété était de 55 ans, et c'est près de 20 ans plus tard, vous pouvez voir que beaucoup ne sont plus en mesure de travailler. Donc, ils ont épuisé leurs ressources. Et donc, la résolution de cette situation sera un soulagement pour eux. Le syndicat a représenté 4500 fermiers blancs chassés de leurs terres lors des réformes destinées à corriger les saisies des terres à l'époque coloniale. Mais lorsque la terre a été redistribuée, la production agricole a diminué, plongeant l'économie du Zimbabwe dans une chute dont elle ne s'est jamais remise. Les critiques disent que l'accord de 3,5 milliards de dollars, qui a pris des années à se négocier, ne fera qu'augmenter la dette du pays. Takura Zangaza est blogueur. La question n'est pas seulement de savoir si nous nous inscrivons dans le récit du capital mondial ou des néo-marchés libéraux du cadre économique mondial et si nous réengageons le capital privé de cette façon, ce qui est essentiellement ce que le gouvernement dit au reste du monde lorsqu'il dit respecter la propriété privée et s'intéresse moins à la justice sociale et économique. Le Zimbabwe espère que l'accord ramènera les investissements étrangers qui ont fui le pays lorsque les propriétés ont été saisies. Ntuli Nkube est le ministre des Finances du Zimbabwe. Vous ne pouvez pas vraiment dire que les problèmes des agriculteurs qui sont en suspens depuis 20 ans montrent que nous n'avons pas de priorité. En fait, c'est l'une des priorités. Il est très important que le problème soit résolu. C'est un problème dans un sens qui a déclenché le genre de sentiment négatif que nous avons reçu de certains partenaires mondiaux. Cela doit être résolu. Ce n'est pas une situation normale. Le Zimbabwe prévoit d'augmenter l'indemnisation des fermiers blancs par le biais de donateurs internationaux et d'une obligation à long terme dans le but d'achever les paiements en 5 ans. Le ministre des Finances dit que s'ils ne peuvent pas réunir les fonds de réparation à temps, le gouvernement rééchelonnera simplement les paiements. Mais une question persiste. Et si cela se produit, les investisseurs étrangers se sentiront-ils suffisamment confiants dans le gouvernement du Zimbabwe pour revenir ?
Mondia avec vous, cette semaine dans Washington Forum, le débat sur le troisième mandat, plus que jamais d'actualité. Après des jours d'attente, les Ivoiriens sont finalement édifiés. Le président Alassane Ouattara sera bel et bien candidat à la présidentielle d'octobre. Son homologue guinéen, Alpha Condé, lui, dit avoir pris acte de son investiture à la présidentielle par son parti et pourrait lui aussi se prononcer incessamment. Pourquoi le débat sur le troisième mandat continue-t-il de se poser en Afrique? Qu'est-ce qui explique la longévité au pouvoir? Faut-il se défaire de la limitation des mandats? Rendez-vous jeudi 13 août à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le candidat du Parti démocrate Joe Biden a choisi la sénatrice de Californie Kamala Harris comme colistière pour la présidentielle du 3 novembre. Cette décision fait de Madame Harris la première femme noire colistière aux États-Unis. Avec elle, c'est la deuxième fois que l'ancien vice-président est candidat dans une équipe biraciale après son partenariat gagnant avec Barack Obama en 2008 et 2012. Yacouba Ouedraogo a joint à New York l'analyste politique René Lake.
Pourquoi Kamala Harris? Je crois que c'était le choix le plus sûr, le plus safe, comme on dit ici en anglais pour Joe Biden. Pourquoi? D'abord, c'est une sénatrice, donc elle a l'expérience de victoire en campagne électorale dans le plus grand État des États-Unis, qui est la Californie. Lui-même avait indiqué qu'il voulait quelqu'un qui ait une expérience en campagne électorale. Donc ça l'a défavorisé, en particulier celle qui semblait être sur la vraiment short list. Susan Rice, qui est plus une technocrate des politiques internationales et de sécurité ici aux États-Unis et qui n'a pas d'expérience politique en tant que telle. Donc Kamala Harris, il y a cette expérience-là. Il y a le fait qu'elle avait également été, disons un peu, ministre de l'Intérieur, procureur général, attorney general, comme on dit ici, de l'État de Californie, qui est un poste aussi électif. Donc elle a quand même obtenu 2 victoires d'élection en Californie, l'État le plus grand des États-Unis. En plus de ça, elle a été candidate à la présidence, donc elle a également l'expérience de la politique à l'échelle nationale.
En quoi, justement, elle va constituer un atout pour Joe Biden
Écoutez, il y a plusieurs facteurs. D'abord, c'est une noire. Ça, c'est un facteur essentiel. Les noirs constituent la base la plus dynamique. Ce sont les fondations aujourd'hui du Parti démocrate. Deuxièmement, comme vous le savez, dans le contexte actuel de ce qu'on appelle le mouvement Black Lives Matter, la question noire, la question raciale, la question de la justice sociale est une question qui est au centre de la vie politique et sociale aujourd'hui aux États-Unis. Donc ça va permettre de surfer, comme on dit, sur cette vague-là. Ensuite, également, Kamala Harris apporte aussi une certaine sympathie du côté de la communauté asiatique, puisqu'elle est également indienne du côté de sa mère, parce qu'elle est noire, elle se définit politiquement et socialement, culturellement comme noire, mais il ne faut pas oublier que c'est une métisse, son père est noir, sa mère est indienne.
Alors, Biden a quelquefois eu des propos jugés un peu dénigrants à l'égard des noirs, jugés bien sûr par ses détracteurs. Est-ce que le choix de Kamala Harris va contribuer à amadouer ses électeurs noirs?
Les quelques gaffes, comme on peut dire familièrement, de Joe Biden par rapport à la question noire, quand il disait que Obama était très articulé, c'est un monde qui est un peu malheureux, en tout cas dans le contexte ici américain. Il y a quelques questions de politique qui sont elles un peu plus sérieuses, qu'il met un peu en porte-à-faux avec la communauté noire ici aux États-Unis, mais c'était vraiment sur des questions absolument mineures et secondaires. Fondamentalement, Joe Biden, d'un point de vue du combat pour la lutte pour les droits civiques, la lutte des Noirs aux États-Unis, a toujours été du bon côté de l'histoire. Donc les critiques à lui chercher des poux, c'est de bonne guerre.
C'était le journaliste et analyste politique René Lake. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez suivre l'actualité en continu sur voaafrique.com et notre page Facebook. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En début juin, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a alloué plus de 350 millions de dollars aux pays d'Afrique subsaharienne pour les aider à faire face à la pandémie du COVID-19. Ces fonds assureront que nous continuons notre mission et travailler en vue de sauver les vies, de même que nous soutenons nos pays partenaires dans leur propre réponse au COVID-19, a déclaré l'administrateur adjoint par intérim pour l'Afrique, Chris Maloney. Mais l'enjeu est beaucoup plus vaste. Ce qui me tient éveillé la nuit, plus que tout, ce sont les effets au deuxième et troisième degré du COVID, a expliqué l'administrateur adjoint Chris Maloney. Je veux dire par cela les effets économiques. Nous passons donc beaucoup de temps actuellement à réfléchir sur des sujets comme la sécurité alimentaire et pour l'USAID, comme vous le savez, nous travaillons dans le secteur rural, mais c'est de plus en plus un problème urbain. Ainsi, lorsque nous avons des gens en confinement, comment envisager des problématiques comme les transferts d'argent, l'approvisionnement des marchés urbains par les marchés ruraux? Ce sont là des questions clés pour nous. L'un des problèmes que nous voyons actuellement à travers l'Afrique a trait aux pays ayant un bas niveau d'engagement, chose pouvant aider ou bloquer un pays. Et ceux qui utilisent le COVID comme moyen d'accroître l'autoritarisme à travers le continent, a dit l'administrateur adjoint intérimaire Maloney. Ainsi, par exemple, plus de 20 000 Zimbabwéens ont été arrêtés pour violation des règles du confinement. Il y a des allégations de violation des droits humains. Nous voulons donc nous assurer de réfléchir sur la manière dont nous pouvons appuyer le plaidoyer de la société lorsque des tels défis surgissent. Dans le même temps, a dit l'administrateur Adrian Maloney, il y a aussi beaucoup de fausses informations qui sont diffusées. Ainsi, nous venons juste de débourser des fonds dans plusieurs pays du Sahel et d'autres parties de l'Afrique de l'Ouest pour œuvrer avec les stations de radio et les groupes de la société civile pour contrer la désinformation, assurer que le bon message passe sur comment faire face à la crise. J'ai confiance, a dit l'administrateur Adrian Maloney, que nos relations et expériences avec les pays partenaires africains au cours des décennies passées continueront de nous aider à attaquer de front la crise actuelle du COVID-19, mais aussi les questions plus globales de développement.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.